Brasero, brassage radio. Brasero, Brasero frontière 2. Parce que nos désirs de mettre à bas les stupides partitions du monde n'ont pas de limites, ça dépasse, ça déborde. Il faut bien 2 heures. Surtout, nous avions rencontré des personnes du GECO, un espace d'entraide et de soutien pour les personnes LGBTQI+, migrantes à Toulouse. C'était chouette, et ça tenait pas dans l'émission précédente. Alors du coup, voilà, on en a fait une autre.
GECO, c'est tout simplement le GEDUC communautaire. Le GECO, GEDUC communautaire, qui est un collectif fondé par des personnes françaises LGBT et des personnes migrantes LGBT. Moi, c'est Barnabé. Je suis Camerounais d'origine. Je suis arrivé au collectif Le GECO depuis septembre 2017, date à laquelle je suis arrivé en France. J'ai connu le GECO sur le biais de l'association ACTOP et par ma travailleuse sociale qui m'en avait parlé. Et je me rappelle que quand je suis arrivé au GECO, c'était en voie de... Enfin, c'est nous qui avons relevé en quelque sorte le GECO, dont je dirais pas le créateur, mais l'un des membres qui ont mis ce collectif en place.
Moi, je suis Ilkim Mamadov, je viens de l'Azerbaïdjan et je suis actuellement étudiant à l'université de Jean Jaurès, première année de master en littérature. Et ça fait premièrement, je veux dire, ça fait 4 ans presque que je suis en France. Et ça fait 2 ans que, à peu près 3 ans que je suis sur Toulouse. Et j'ai connu GECO, on peut dire, juste après sa création. Ça veut dire, c'était, je pense, troisième ou quatrième jeudi collectif que je suis y allé. Et ça s'est bien passé. J'ai bien sympathisé avec les jeunes qu'ils ont créé cette collectif, et je suis très content d'y être.
Moi, je m'appelle Indrajit Samji, mais je dis souvent Indra, c'est plus facile à retenir. Je suis d'origine indienne, mais je suis né et je suis de nationalité burundaise. Je suis arrivé en France en 2012 sur un visa étudiant, et j'ai découvert le GECO cette année, en 2019. Je partais souvent à l'association Arc-en-Ciel pour des permanences le mardi et le mercredi après-midi. Et là, une personne m'en a parlé. Du coup, je me suis dit, ça serait bien que j'y aille vu que j'ai pas de contact avec des personnes LGBT. Et j'aimerais bien plus être en contact avec des personnes de ma communauté. Et du coup, ça fait 4 fois que je suis allé au GECO. Et j'ai beaucoup aimé parce que je me sens libre, je me sens... en sécurité, et c'est vraiment des personnes à qui je ne dois pas expliquer par mes mots même ce que je ressens, parce que ils ressentent pas mal de choses, on ressent pas mal de choses, les mêmes choses, et oui, je me sens, c'est comme si c'est une famille en fait. C'est voilà, il n'y a pas de jugement, et c'est vraiment l'amitié. Il y a de l'aide, de l'entraide, et voilà. Et en tant qu'une personne demandeuse d'asile, je me sens bien encadré, je me sens comme chez moi en fait.
Alors pour moi, le GECO, c'est tout simplement le jeudi communautaire qui permet, c'est un espace qui permet aux personnes migrantes de pouvoir se retrouver, de parler un peu de leur passé, leur vécu, et de discuter également des problèmes sur l'avenir des personnes LGBT. Donc c'est un peu dans ce sens que le GECO fonctionne en fait.
GECO pour moi, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'aider aux gens, pour que les jeunes, les nouveaux, surtout les nouveaux arrivants qui arrivent sur Toulouse, en France, qu'ils ont besoin de parler, d'échanger, de discuter, ben, on est là pour aider On est là pour écouter et ce que nous pouvons, nous essayons d'aider toujours et d'être à côté de ces gens. Voilà, je crois que c'est un peu ça pour moi.
Pour ma part, je pense que les galères que nous avions en commun déjà par rapport au collectif Logico, déjà on a des galères, des difficultés, enfin pour des personnes qui intègrent Logico nouvellement, on a les problèmes de langue déjà qui ne favorisent pas très souvent la discussion, de pouvoir comprendre les autres. Donc il y a déjà ce problème de barrière. Et ensuite on a un vrai problème qui est celui de l'hébergement en France face aux personnes migrantes qui arrivent. Et c'est vraiment un problème qui nous dérange en ce moment. Et également le problème de... Parce que nous, Logico, si vous voulez, on vit également au soutien aux personnes en difficulté. C'est-à-dire, voilà, on essaye de notre niveau, à notre niveau, d'aider les personnes en difficulté financièrement, qui n'ont pas peut-être quoi manger, enfin, financièrement. Donc, on a des galères aussi de ce genre, parce que les gens se disent, quand ils arrivent dans une association, enfin, dans un collectif, ils vont trouver déjà peut-être tout en place, c'est-à-dire des appartements, des aides financières, des trucs de ce genre. On ne dit pas non, hein, mais c'est un peu des problèmes dans ce genre qu'on fait face, mais bon, qu'on est en train de voir comment y remédier afin de pouvoir venir plus en aide aux personnes en difficulté. C'est vraiment un collectif qui accueille tout le monde. Hein. Et il faut qu'on le précise aussi, Logico n'accueille pas seulement que des migrants. Logico accueille même des personnes françaises, résidant en France, qui veulent bien connaître le côté des migrants. Parce que vous savez, il y a des gens qui voient des migrants d'une autre vision, sans toutefois connaître la forme de l'immigration. Et il y a des immigrants qui viennent pour des raisons économiques. Il y a diverses raisons. Hein. Et également, Logico est ouvert pour cette population française qui voudrait connaître un peu plus de comment ça se passe pour la communauté LGBT migrante. Donc, on est ouvert à tout le monde. On est ouvert aux questions. Logico est là, ouvert pour tout le monde. On accueille tout le monde.
Chaque deuxième et quatrième jeudi de mois, et on se réunit au planning familial, on se rejoint là-bas, on parle et on accueille de nouveaux arrivants, s'il y en a. S'il n'y en a pas, on est entre nous, on parle comme ça. Et puis, ce n'est pas que ça. En fait, on essaie d'organiser des différents événements. Là, maintenant, le mois de Pride arrive. Et du coup, on planifie beaucoup de choses à faire pour que la communauté LGBT, parce que la communauté LGBT déjà à Toulouse ou en France, elle n'est pas toujours concernée, elle ne sait toujours les difficultés des migrants LGBT et les difficultés, comment ils arrivent, de quoi ils ont besoin, c'est quoi leurs soucis, etc. Et du coup, on essaie de montrer un peu c'est quoi déjà GECO, c'est quoi notre but, c'est quoi notre si je dirais, ambition de présenter et que les gens aient aperçu une vue sur GECO en totalité et sur les migrants, parce que c'est la question de migrants, mais ce n'est pas la question tout simplement des migrants, mais ce sont des migrants LGBT. Ça veut dire que ce sont des migrants qui ont des difficultés déjà dans leur pays, qu'ils étaient obligés de quitter leur pays, mais quand ils arrivent en France, comme la France elle est grande, et il y a beaucoup de communautés, beaucoup de gens de différents pays, et eux, ces migrants-là, même en France, des fois, ils sont tellement seuls, ils ont besoin de communication, s'ils vont envers leur communauté, leur propre communauté. Par exemple, un Africain arrivant, nouveau arrivant en France, sur Toulouse par exemple, il va trouver ses compatriotes, il sera encore discriminé parce que, je ne dis pas 100% qu'il va être discriminé, mais ça peut arriver parce que les gens, des fois il y a la discrimination même en France, et ça c'est évident, on ne peut pas nier ça. Et du coup, c'est la question très sensible sur les migrants LGBT. Voilà, GECO, ça reste pas que deux fois par mois. C'est un peu plus. Et On a envie, on ne sait pas encore est-ce qu'on pourra arriver ou pas, mais pendant la Pride de nuit ou la Pride de jour, on a envie de faire un char et les slogans pour les LGBT réfugiés ou les LGBT migrants en France.
Le fait d'en parler de GECO, ça permet surtout de sensibiliser les gens, parce que souvent, la personne immigré, l'immigré en fait vu d'une manière un peu péjorative, n'est pas vraiment vu, souvent c'est vu comme une personne qui est là pour peut-être pour envahir, pour voler, pour je sais pas, c'est pour quelqu'un qui est là juste pour profiter. Et donc GECO, ça grâce au travail qu'on fait en dehors de GECO, ça permet aussi de montrer que non, on est comme des humains, juste comme vous, on a des rêves comme vous. On a des besoins comme vous, et tout ce qu'on veut, c'est juste avoir un avenir sécurisé. Ou disons que si j'ai un copain, que je puisse tenir sa main en rue sans que je me fasse emprisonner ou tuer pour ça.
Je parlerai personnellement de moi. J'ai été très, 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 très heureux d'être au GECO, parce que ça m'a permis de retrouver la confiance que j'avais perdue, de retrouver le courage et l'envie de me battre au sein de ma communauté d'appartenance qui est les personnes LGBT. Donc avec le GECO, ensemble, là, on fait une superbe équipe voilà, qui donne le réconfort et qui... enfin, je veux dire, qui redonne le moral et l'envie de continuer à vivre. Voilà.
Dont on n'en parle pas souvent, c'est la discrimination au sein même de la communauté LGBT. On oublie que ce n'est pas parce qu'une personne est gay qu'elle ne peut pas être raciste. Il y a beaucoup de racisme au sein de la communauté LGBT même. Moi, sur les applications, j'ai déjà reçu des commentaires qui peuvent passer, comment dire, racistes. Par exemple, si vous parlez à une personne et cet homme est de peau blanche, et j'ai déjà reçu la réponse, je ne suis pas intéressé par les Asiatiques. Ou bien même dire non, les Asiatiques, les Latinos ne m'intéressent pas. Les Africains ne m'intéressent pas. Donc ce genre de commentaires. Et quand on est au GECO, le fait d'être tous, bon pas tous, mais principalement des personnes d'origine étrangère, on se sent, il y a, comment dire, il y a ce côté qui n'est plus là. On s'accepte, il y a l'acceptation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas le racisme. On ne se sent pas que, oui, voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est qu'on est tous des personnes qui ont un certain, des points communs qui fait que, voilà, on a un vécu commun qui fait qu'on est un peu... qui crée vraiment la communauté, même si on est différent, mais quand même il y a des points communs.
Oui, le point commun, c'est déjà, c'est que, comme il a dit, la majorité c'est des migrants, et du coup, même peut-être que c'est pas le même parcours que tout le monde a eu pour venir en France, parce qu'il y a de différents moyens de venir. Moi, je suis venu en tant qu'étudiant. Par exemple, il y a les autres amis qui sont passés par Libye, par des différentes difficultés. Ce n'est pas les mêmes que les miennes, mais ça reste quand même les difficultés qui sont beaucoup plus dures. Mais je peux comprendre cette personne beaucoup plus facilement, parce que moi aussi, même je suis arrivé en France, on arrive en France, peut-être que... L'un de nous, un peu plus, quand il arrive, il est un peu plus à l'aise. L'autre, il n'est pas plus à l'aise parce qu'il y a des difficultés de logement, il y a des difficultés de travail, et il y a beaucoup de difficultés de financières, tout ça. Et là, on peut comprendre parce que une personne lambda qui est née sur le sol de la France, c'est une personne... C'est pas facile, c'est pas si évident de comprendre parce qu'il faut... Soit tu passes en tant qu'une personne, soit tu passes le même parcours, soit tu lises beaucoup pour que... pour connaître ces difficultés. Soit tu passes par cette route, soit tu passes par là, mais dans tous les cas, il faut que tu aies le moyen pour comprendre. Si tu n'as pas cet outil de compréhension, tu restes toujours une personne à part qui ne pourra jamais, jamais je dis pas jamais, on ne dit jamais, jamais, mais cette personne, pour l'instant peut-être qu'elle ne pourra pas comprendre. Et là, il y a les gens comme toi, il y a les gens qui ont eu le même problème, qui sont les mêmes problèmes actuellement. Il y en a qui sont en train de faire leur demande d'asile, il y en a qui ont passé par l'entretien d'OFPRA, qui attendent leur réponse. Est-ce que ça sera positif, ça sera négatif? Toutes ces angoisses qui nous réunissent et qui nous donnent... Et discuter de ça, parce qu'on se réunit, on parle pas que de fêtes, de la littérature ou les choses comme ça. On aussi discute, on a la tendance de discuter aussi comment... Parce qu'il y a les gens qui ont eu déjà leur statut de réfugié, ils peuvent nous parler comment ils ont eu leur entretien, ils peuvent raconter leur histoire, leur parcours avant d'arriver en France... Et le parcours d'OFPRA, tout ça. Et on essaie de s'organiser comme ça, de parler un peu de ça. Mais ici en France, surtout à Toulouse, on peut observer un autre cas. Ce cas, c'est la communauté aussi se distingue. Parce qu'il y a, on dit, nous disons entre nous, il y a la communauté TPG, il y a la communauté un peu les gays ou les lesbiennes qui sont un peu... je sais pas comment on peut dire ça, mais un peu bobo, je sais pas, les gens qui, nous aussi, les gens qui appartiennent à la communauté TPG aussi, nous fréquentons par exemple des bars, des trucs comme ça, mais eux, ils sont à part, ils sont beaucoup plus tranquilles dans leur confort, ils sont jamais sortis de leur confort. Et pour pouvoir comprendre, il faut sortir de ce confort. Et ils sont jamais sortis de ce confort. Mais le milieu TPG, ce sont des gens qui sont beaucoup... Le racisme dont parlait mon ami maintenant, ça existe dans le milieu TPG, mais c'est même il y a un raciste ou il y a une personne qui discrimine d'autres personnes d'après leur... de différents, d'après poids, je sais pas, d'après la couleur de peau, etc. Et dans le milieu TPG, c'est un peu beaucoup strict, c'est un peu, ils osent pas, ces gens-là. Mais dans le milieu qui est d'autres milieux, c'est très très compliqué d'intégrer. Mais heureusement que moi je me considère dans le milieu TPG, et heureusement qu'on est dans ce milieu-là, parce que là, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus, ils nous acceptent facilement. Et moi, par exemple, j'ai connu plein de gens qui m'ont aidé sans rien demander, sans rien. C'est tout simplement, j'ai dit que j'ai besoin de ça, et ils m'ont aidé. Voilà. Moi, je trouve que c'est une chance de connaître ces gens-là.
Déjà, pour moi, une frontière, c'est pas quelque chose d'humain, c'est plus quelque chose de politique diplomatique. C'est ce genre de cadrage qui a été fait. Des communautés qui ont été créées autour du monde, et c'est quelque chose qui se fait depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mais je vois pas, c'est... Peut-être, quand je dis que Je vois plus ça d'un côté politique, diplomatique, c'est surtout avec tout ce qui est toutes les difficultés qu'il y a quand on peut pour aller d'un pays à un autre, en fait. C'est plus dans ce sens-là.
Déjà, pour moi, les frontières, c'est parmi les gens. C'est parmi les gens parce que les gens, ils se différencient l'un d'autre d'après différentes choses, d'après leur point de vue sur les différents. Et ça crée des frontières et ça nous empêche d'aller l'un de l'autre. Et là, on peut poser la question, est-ce que c'est une obligation de casser toutes ces frontières pour avoir cet aller-retour envers d'autres? Pour moi, personnellement, les frontières, c'était entre moi et entre mes rêves et ce que je veux être, ce que je veux faire, ce que je rêve. Et pour moi, la frontière, moi, je considère qu'il y a. C'est justement ce position et je considère qu'il y a la société, il y a le socium. Et la société, c'est où moi je vis physiquement, où je me trouve. Par exemple, j'ai vécu en Azerbaïdjan jusqu'aux 28 ans, jusqu'aux 27 ans, dans la société, mais mentalement, physiquement, j'étais là, j'étais présent, mais mentalement, mes pensées et mon âme, c'était pas là-bas. Moi, je n'appartenais pas à l'Azerbaïdjan. Mais Socium, c'est où je me trouve mentalement, où je me trouve, où je suis heureux. C'est ça un peu pour moi, les frontières. Et encore, je voulais ajouter sur la question un peu LGBT. En 1984, de Orwell, il y a une histoire de amoureux entre les héros principaux. Et là-bas, ils n'arrivent pas à s'aimer. Ils n'arrivent pas. C'est l'État, c'est le gouvernement, c'est la dictature qui crée des frontières parmi les gens. Ils n'arrivent pas à se rejoindre. Ils arrivent. C'est interdit d'aimer. Il y a une interdiction de se toucher avec les uns. C'est tout simplement, il y a touche physique pour avoir les enfants, pour donner au pays, pour que ces gens-là, ils travaillent. Mais il n'y a pas l'amour. Et là-bas, les héros principaux, ils cassent ces frontières en partant et en trouvant l'amour entre eux. Et en partant, en sortant de ce milieu de la ville, de centre de la ville, en partant dans la nature. Et ils vivent leur amour dans la nature premièrement, et puis ça continue comme ça. Et pour moi, c'était ça un peu. Quand j'étais en Azerbaïdjan, le pays et la société ne me donnaient pas la possibilité d'être moi-même. Aimer la personne, je pourrais aimer, mais c'était pas un amour dont je pourrais parler ouvertement. Et j'ai cassé ces frontières quand je suis arrivé en France. Là maintenant, même en France, il y a des homophobies, il y a tout, je nie pas ça. Mais il y a les lois et il y a la liberté, vraiment dans la tête, il y a la liberté. Voilà.
L'idée de la frontière, ça peut être représentée à travers le mythe de la tour de Babel. En gros, ça dit que s'il y a une époque où toutes les personnes sur la Terre sont réunies pour construire une
Ouais.
tour, en gros, ils ont travaillé en harmonie. Il y avait une très bonne entente, les gens ont commencé à travailler ensemble, il y avait une harmonie, les gens s'aimaient.
Surtout la langue commune.
Voilà, c'est ça. Et là, les dieux, jaloux de voir cette harmonie, ils ont eu peur qu'en fait, si les humains vont régner, leur pouvoir n'aura aucune importance. Du coup, ils détruisent la tour et ils envoient tous les humains dans différents coins de la Terre en leur donnant une différente langue, des différentes origines, des différentes religions. En gros, leur donnant à chacun plusieurs différences qui fait de sorte qu'ils n'arrivent plus à se communiquer entre eux-mêmes.
Oui.
Et donc, quand moi je vois l'état actuel, c'est un peu, il y a aussi ça, la différence par rapport à la religion. La différence par rapport aux langues, par rapport aux cultures, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport au genre, par rapport je sais pas, à la nationalité. Et cela, en fait, personnellement, je trouve que c'est souvent aggravé par les gouvernements eux-mêmes. ou même par les institutions, quand on voit par exemple les frais d'éducation qui sont énormément élevés. Si une personne ne peut pas s'éduquer proprement, comment est-ce qu'elle va savoir ce qui se passe en dehors de son milieu de vie, en dehors de son milieu de confort? Les frontières, c'est... Oui, j'avais pas pensé, mais comme il a un peu dit, et ça peut être... Il y a différents types de frontières, il y a différents types de... Il y a beaucoup de frontières qui... dans la vie, qui séparent pas mal de personnes. Ça va avec une histoire que ma mère me racontait quand j'étais petit. C'est un conte. L'histoire, c'est que il y a un parent qui appelle ses quatre enfants parce que ses quatre enfants étaient en train de se battre. Du coup, il leur dit, chacun venait avec un bâton. Chacun prenait deux bâtons du jardin et revenait. Et là, ils reviennent et là, on leur dit, un par un, chacun prenait un bâton et cassait. Juste un seul bâton. Quand vous avez un seul bâton, c'est facile de le casser. Et maintenant, rassemblez, prenez tous le deuxième bâton, rassemblez-les en quatre. Mettez tous les quatre bâtons ensemble et essayez de les casser maintenant. Et les quatre, ils ont essayé et ça n'a pas marché. Et la morale, c'est que tant que vous restez ensemble, l'idée d'unité, on ne peut pas vous casser, ou au mieux, au pire, on va avoir du mal à vous casser. Et donc, c'est quand même, c'est ça, c'est ouais. Diviser, gouverner, c'est que c'est plus facile de gouverner quand on va mettre des différences. À nos jours, on passe plus à... Ça passe souvent à des séparations et moins à l'idée de on a juste des pensées différentes.
Personnellement, moi je pense que nous sommes dans un monde où il ne devrait pas y avoir des frontières. Déjà, on est tous des humains et les frontières c'est réservé pour. Enfin, je sais pas pourquoi ça existe déjà. Mais bon, on est né dans un monde qu'on a trouvé déjà limité. On essaye de faire avec et pour moi c'est vraiment quelque chose de pas très important parce que moi je pense que nous sommes tous un et on n'a vraiment pas trop besoin des frontières quoi. Enfin, donc la question n'a pas, c'est, pour moi les frontières n'ont pas besoin d'exister en tout cas. Ça n'a vraiment pas besoin d'exister parce qu'il n'y a qu'un seul monde, il n'y a pas deux mondes. Et on est tous appelés à partir, on est tous appelés à laisser tout ce qu'il y a au monde. Voilà. Donc profiter de la vie qui nous reste de la plus belle manière, en étant unis, en étant solidaires les uns les autres, sans barrière de langue, ni de couleur, ni de religion. Et c'est pour moi être un seul monde, et un monde sans frontières. Vas-y.
Jeko, c'est chaque deuxième et quatrième jeudi du mois.
Le prochain sera le 14 mars à 17h30.
À l'adresse 23 rue Moireau, derrière la gare de Matabio Marengo, plus précisément derrière la médiathèque, au planning familial exactement.
Oui. Ouais. Venez nous voir.
De l'air, de l'air, bras zéro frontière.
The time when people can come in our community and get us to vote for them so that they can be our political leaders and tell us what to do and what not to do is long gone. Yeah. Yeah. Woo!
So let the people be. Everybody want the same thing, don't they? Everybody want a happy end.
Yeah, we do.
Everybody say we need a new president. Uh-huh. But we all know that won't change a thing. Uh-uh. Nobody wanna work for a living. Everybody want their children warm. Everybody want their family protected. Yeah. Food, clothes, and shelter from the storm.
I wake up in the morning, my mind focused on freedom. My name is Olubala, that's for the love of the people. Don't wanna be deceived by the pyramid and the eagle. If you ain't got no dinero, America don't see you. But that's all some game, they all some lame. All over the terrain is hurricane and flames. Up in the gun range to improve my aim. And
then use my brain and continue the train. If you live like you know what it is, then you're gonna be living for the struggle and loving one another. Like the kings and queens we are.
We are. We are.
Sick of these crooked police, sick of these politicians, sick of these schools and the churches, sick of their whole system. Instead of education, they building new prisons. This generation fed up, seeking a new vision. Waiting on healthcare, you dying on a stretcher. They take away the welfare, no food, clothes, and shelter. Got these teens in wheelchairs, military veterans, but the people waking up to resist this oppression.
So let the people be heard. We won't continue to search. We got to get it to work. Let's do it differently. Let the people be heard before it gets any worse. It's about what it's worth. It's for our family.
For our family.
Everybody want the same thing, don't they? Everybody want a happy end. Everybody say we need a new president, but we all know that won't change a thing. Nobody wanna work for a living. Everybody want their children born. Everybody want their family protected. Food, clothes, and shelter from the storm.
We won't continue to search. We got to get it to work.
Dead presidents. Revolutionary against the grills. Turn off the radio volume 4. You already know what it is.
It's for our family.
And it's just the beginning.
Let the people be heard.
Look out for the information age.
C'est là-bas qu'il y a. C'est là-bas qu'on nous envoie pour les hébergements. Et il y a aussi la douche, et quelquefois de la nourriture. C'est là-bas qu'on nous donne aussi les tickets de vestiaire. Si quelqu'un n'a pas de vêtements. Et il y a un docteur, il y a un psychologue, il y a une aide juridique. Et moi, je vais voir l'aide juridique, Alice. Et elle est très gentille, c'est une jeune. Je ne sais pas si elle est stagiaire ou si elle est travailleuse. En tous les cas, elle m'a promis qu'elle va venir avec moi à la préfecture. Et c'est la première fois que quelqu'un fait ce geste avec moi. Quand le général de Gaulle est venu au mois de mai 58, j'étais au collège, au lycée Lavant, on nous a emmenés. Et quand on nous a emmenés, on a rassemblé toutes les classes. Tous les élèves, on nous a bien habillés, tout ça, on nous a donné de beaux vêtements. Et c'était, il fallait qu'on dise vive le général de Gaulle, vive la France et tout ça. Et on nous a, je me rappelle, je m'étais évanouie et on m'a donné un sucre avec l'éther. Et c'est la première fois que j'ai goûté à l'éther. Donc, on est allé et le général de Gaulle était là. Et il a fait un discours. Je me souviens très bien que je l'ai vu, mais je n'ai rien entendu et rien compris. Il parlait que l'Algérie, qu'il fallait que l'administration coloniale donne de l'importance aux gens du pays. C'était le plan de Constantine. C'est-à-dire qu'il fallait rentrer les Algériens dans l'administration. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les Algériens n'étaient pas considérés comme des Français. C'était des riens. C'était des indigènes. Donc, la France est là. Elle est en Algérie. Mais toi, tu n'as pas... par exemple, nos parents ne sont pas considérés comme des Français. Donc, ils n'ont pas le droit à certains travaux, à certains boulots, à certaines universités.
Et vous avez l'autorisation de travailler ou pas? Ça, c'est possible de le demander. Hein. Bah, et ça, il faut faire la demande, en fait, à la direction du travail. Ouais. Ouais. Je serai pas là le matin, donc l'après-midi, d'accord? Ok. Au revoir, bonne journée.
Donc, je sais pas si vous vous rappelez de ce que vous m'avez demandé.
Si, il me semble, hein, je vous ai demandé de ramener les preuves de votre présence en France depuis les 10 dernières années.
Voilà. Donc, je vous ai pas ramené les originaux, J'ai même pas ramené toutes les photocopies parce que, comme ce matin, on était pressé et l'assistante sociale, elle avait le cartable. Mais c'est pas grave, je vous ai ramené le récapitulatif.
D'accord. Alors, et vous avez bien, pour chaque année, plusieurs documents.
Oui, bien sûr.
Vous avez classé année par année
ou pas ? Oui, oui, c'est pas... Attendez, je vais vous montrer un document dans lequel tout est classé. Ça, c'est la lettre de la CIMAD qui a été faite à la préfecture. Alors là, vous avez la date. Voilà. Ça, dans cette lettre, vous allez avoir toutes les preuves de ma présence pendant 15 ans. Mais là, ils m'ont demandé 10 ans, donc il y a... Depuis 85. Mm-hmm. Bon, mais on n'a pas besoin de ça, on a besoin de 92. 92, ouais. Voilà. Ensuite, comme il n'y a rien eu, la CIMAD m'a orientée chez un avocat.
D'accord.
Il a fait une requête.
Au tribunal.
Oui, il a fait une requête au tribunal.
D'accord.
Ça, c'est bon, c'est rien. Donc, à la suite, quand ils ont reçu la lettre de mon avocat, ils m'ont dit, Madame, vous présentez-vous avec les originaux. Je me suis présentée un jour parce que je reçois mon courrier chez Madame Dos Santos. Et elle n'a pas pu me contacter à cause de mon téléphone. Et quand elle a pu me contacter, j'ai couru. Et j'avais un jour de retard. Et quand je suis arrivée, ils ont refusé de me parler. Ils m'ont dit, pourquoi vous n'êtes pas venue hier ?
Ils ont pardonné un autre rendez-vous.
Je les ai suppliés. Je leur ai dit, redonnez-moi seulement un rendez-vous. Ils ne m'ont pas donné de rendez-vous. Je me suis représentée un autre jour avec mes originaux. Et là... Une demoiselle gentille comme vous m'a acceptée. Et elle a vérifié tous mes originaux. J'ai dit, est-ce que maintenant je peux perdre mes originaux ou les égarer ou les cacher ou... Parce que là, j'ai un casse-tête parce que je suis en foyer et tout ça. Je peux les perdre. Elle m'a dit, soyez tranquille. Maintenant, la vérification a été faite. On va vous appeler juste pour vous donner votre titre de séjour. Vous allez ramener vos photos et on vous donne votre titre de séjour. Et depuis ce jour-là, rien.
Alors, je reviens sur le mépris des gens. Parce qu'on est sans papier, on ne vaut plus rien. Pourtant, ce n'est pas ça ce qu'on apprend. Alors, comme vous avez dit, on dirait que les exactions de l'époque coloniale se sont transportées ici. Et nous, les fils ou les petits-fils des anciens colonisés, nous venons encore subir ce que nos parents ont subi dans le temps sous l'impulsion des colonialistes.
Maintenant, c'est là où vraiment il faut poser le problème par rapport à l'application de la loi et par rapport à ce que devrait être une administration quand même fiable, qui ne peut être fiable que par le travail de ses agents.
Il y a aussi...
Est-ce que quelque chose a été fait? Ou pourquoi cette impression de malveillance générale?
Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, il faut demander le historien. Quelqu'un qui t'a dit tu n'as pas le droit, et tu dis oui, j'ai le droit. C'est mon droit et mon devoir pour avoir tout ce qu'il faut ici. Parce que le pays là aujourd'hui, qui est bien, qui est comme un paradis, c'est notre souhait. Et puis c'est notre richesse aussi.
J'avais 20 ans quand je vis pour la première fois le bois de Vincennes. Je représentais le simulacre de moi-même et de mon peuple. J'étais étrangère, enfermée par la grande France coloniale, celle du maréchal Lyautey, de Paul Reynaud ou de Joséphine Baker. C'était en 1931. Il nous exposait aux yeux des spectateurs curieux de visiter l'exposition coloniale.
Quelques minutes suffisent à l'heureux visiteur de l'exposition internationale pour accomplir une traversée qui demande d'ordinaire de longs jours à bord des plus grands paquebots. À peine a-t-il posé le pied sur l'île des Cygnes qu'il découvre l'artisanat syrien et libanais de nos États du Levant. Deux pas à peine le conduisent à nos protectorats du Maroc et de Tunisie, puis dans une ruelle de la Casbah d'Alger. Un saut de puce et le voici au cœur de l'AEF, dans un village pygmé de l'Ouban-Guichari. Plus loin, près du pont de Passy, c'est l'AOFT Tombouctou et ses mystères, Abonné et le palais du roi Gléglé. Le visiteur découvre ainsi la diversité de la mission civilisatrice de la France dans ces colonies dont les indigènes peuvent ainsi entretenir et développer une activité laborieuse conforme à leur mentalité comme à leur tradition, tout en bénéficiant progressivement des avantages incomparables qu'apporte notre civilisation industrielle.
Nous étions adolescentes au sein nu, exhibées au regard concupiscent des visiteurs. Nous étions condamnés à simuler toutes sortes d'indigènes exotiques. Nous étions canaques, enfermés dans nos cages. Nous devions jouer aux cannibales pour impressionner le public. Peu nombreux furent ceux qui s'opposèrent à cette glorification du colonialisme. Le Parti communiste organisa une contre-expo et les surréalistes dans un tract crièrent
« Ne visitez pas l'exposition coloniale !» Ne visitez pas l'exposition coloniale! Ne visitez pas l'exposition coloniale!
Plus de 8 millions de personnes ne suivirent pas cette consigne. Ils furent séduits par l'innovatrice machine publicitaire de l'époque. J'étais agressive. Les spectateurs et les photographes en étaient surpris. Ils s'attendaient sans doute à ce que je sois naturellement souriante. J'ai 20 ans, je me trouve à côté de l'exposition d'hier et de l'insouciance d'aujourd'hui. À nouveau en cage, mais caché du regard des badauds, interdit au regard de ceux qui voudraient savoir. En attente d'être expulsés, nous sommes enfermés parce que considérés comme étrangers indésirables. Nous sommes au centre de rétention, juste en face de l'hippodrome. Ici, au fil des jours, des mois, nos révoltes se poursuivent. Le 21 juin 2008, Salem Essouli est mort. Il était malade. Les policiers qui nous gardent lui ont refusé les soins dont il avait besoin. On a gueulé, on a manifesté notre colère. Ils nous ont tabassés et gazés. Le lendemain, nous nous sommes révoltés, une fois de plus.
Rosa Luxembourg publie le 1er janvier 1912 dans le Journal des femmes socialistes un texte intitulé « Dans l'asile de nuit ». Le texte part de l'émoi provoqué par une intoxication massive due, semble-t-il, à l'ingestion de harengs périmés. Ce harengs périmé avait été distribué aux sans-abri de la ville par des organismes de charité justement dans un asile de nuit. Donc à partir de ce drame, comme on dit, elle va faire en sorte de remonter de ce fait divers à la réalité qu'il révèle ou qu'il masque. C'est selon la lecture qui en est faite, le point de vue qu'on adopte. Quelques extraits de ce texte qui me semblent peuvent être rapportés à ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc après avoir décrit les faits et les mois qui s'en est suivi, les larmes de crocodile et les agitations stériles des bonnes âmes, elle enfonce le clou. Toute l'affaire a produit dans la vie publique une dissonance criarde. D'habitude, notre société, en gros, a l'air de respecter les convenances. Elle prône l'honorabilité, l'ordre et les bonnes mœurs. Certes, il y a des lacunes dans l'édifice de l'État, et tout n'est pas parfait dans son fonctionnement. Mais quoi ? Le soleil lui aussi a ses tâches, et la perfection n'est pas de ce monde. Les ouvriers eux-mêmes, ceux surtout qui perçoivent les plus hauts salaires et qui font partie d'une organisation, croit volontiers que, tout compte fait, l'existence et la lutte du prolétariat se déroulent dans le respect des règles d'honnêteté et de correction. La paupérisation n'est-elle pas une grise théorie depuis longtemps réfutée? Personne n'ignore qu'il existe des asiles de nuit, des mendiants, des prostituées, une police secrète, des criminels et des personnes préférant l'ombre à la lumière. Mais d'ordinaire, on a le sentiment qu'il s'agit là d'un monde lointain et étranger, situé quelque part, en dehors de la société proprement dite. Entre les ouvriers honnêtes et ses exclus, un mur se dresse. Et l'on ne pense que rarement à la misère qui se traîne dans la fange de l'autre côté de ce mur. Et brusquement, survient un événement qui remet tout en cause. C'est comme si, dans un cercle de gens bien élevés, cultivés et gentils, au milieu d'un mobilier précieux, quelqu'un découvrait par hasard les indices révélateurs de crimes effroyables, de débordements honteux. Brusquement, sous les apparences frivoles et enivrantes de notre civilisation, on découvre l'abîme béant de la barbarie et de la bestialité. On en voit surgir des tableaux dignes de l'enfer, des créatures humaines fouillant les poubelles à la recherche de détritus, d'autres se tordent dans les affres de l'agonie ou exhalant en mourant un souffle pestilentiel. Et le mur qui nous sépare de ce lugubre royaume d'ombre s'avère brusquement n'être qu'un décor de papier peint. Ainsi, chaque année, chez les prolétaires, des milliers d'existences s'écartent des conditions de vie normales de la classe ouvrière pour tomber dans la nuit de la misère. Ils tombent silencieusement, comme un sédiment qui se dépose sur le fond de la société, élément usé, inutile, dont le capital ne peut plus tirer une goutte de plus, détritus humains qu'un balai de fer éjecte. Contre eux se relaient le bras de la loi, la faim et le froid. Et pour finir, la société bourgeoise tend à ses proscrits la coupe du poison. Luciane Sipipierowski, qui finit sa vie dans la rue empoisonnée par un hareng pourri, fait partie du prolétariat au même titre que n'importe quel ouvrier qualifié et bien rémunéré, qui se paie des cartes de nouvel an imprimées et une chaîne de montre plaquée or. L'asile de nuit pour sans-abri et les contrôles de police sont les piliers de la société actuelle au même titre que le palais du chancelier du Reich et de la Deutsche Bank. Et le banquet aux harengs et aux torboyaux empoisonnés de l'asile de nuit municipal constitue le soubassement invisible du caviar et du champagne qu'on voit sur la table des millionnaires. Messieurs les conseillers médicaux peuvent toujours rechercher au microscope le germe mortel dans les intestins des intoxiqués et isoler leur culture pure. Le véritable bacille, celui qui a causé la mort des pensionnaires de l'asile berlinois, c'est l'ordre social capitaliste à l'état pur. Chaque jour, des sans-abri s'écroulent, terrassés par la faim et le froid. Personne ne s'en émeut. Seuls les mentionnent le rapport de police. Ce qui a fait sensation cette fois à Berlin, c'est le caractère massif du phénomène. Le prolétaire ne peut attirer sur lui l'attention de la société qu'en tant que masse qui porte à bout de bras le poids de sa misère. Même le dernier d'entre eux, le vagabond, devient une force publique quand il forme masse, et ne formerait-il qu'un monceau de cadavres. D'ordinaire, un cadavre est quelque chose de muet, de peu remarquable. Mais il en est qui crie plus fort que les trompettes et éclaire plus que les flambeaux. Au lendemain des barricades du 18 mars 1848, les ouvriers berlinois relevèrent les corps des insurgés tués et les portèrent devant le château royal, forçant le despotisme à découvrir son front devant ses victimes. À présent, il s'agit de hisser les corps empoisonnés des sans-abri de Berlin, qui sont la chair de notre chair et le sang de notre sang, sur des milliers de mains de prolétaires et les porter dans cette nouvelle année de lutte en criant « Abat l'infâme régime social qui engendre de pareilles horreurs !»
Baccalauréat scientifique 89, diplôme d'état d'infirmier, 93, Batna, Algérie. Formation école paramédicale, Algérie. Durée de la formation, c'est 3 ans, de 91 à 93. Niveau d'études, c'est Bac plus 2. Expérience, hôpital CHU de Batna, en qualité d'infirmier, 93-98. Dans les services suivants. Service des urgences chirurgicales, 12 mois. Service bloc opératoire, 12 mois. Service de cardiologie, 12 mois. Service chirurgie femme, qualité de chef de service, 24 mois. Au niveau de la PC, mairie de Batna. Service d'hygiène, 8 mois. Ça, c'est des fois, j'ai fait des CV pour envoyer au niveau des hôpitaux, la DAS. Des fois, j'ai déposé mon dossier, dossier administratif. Je dépose mon dossier comme ça pour faire des efforts, pour voir les formations au niveau administratif. Je sais, je n'ai pas le droit de travailler, je n'ai pas le droit de faire une formation, mais tellement, j'ai fait comme ça. J'ai fait semblant, ça veut dire psychologiquement, j'ai fait comme ça. Pourquoi j'ai fait des efforts, j'ai déposé mon dossier là, juste pour garder le moral. J'ai fait semblant pour garder le moral. Ouais. Non, toujours, parce qu'on est toujours à l'espoir.
Mais donne-moi un papier pour travailler, juste pour, comment dirais-je, pour donner l'oxygène, pour vivre, t'as vu. C'est pas, j'ai pas demandé la richesse, moi. J'ai pas demandé de me donner un papier pour rentrer à la paradis ou pour être une place de Chirac ou quoi. Donner juste un beau papier pour travailler. J'ai pas demandé l'impossible. J'ai pas demandé la lune, ça c'est clair. Franchement, ils ont torturé les gens pour un beau papier et laisser les gens souffrir, franchement. C'est pour ça que j'ai envie de sortir le plus vite possible. C'est pour ça que j'ai occupé ma tête par une formation. Tellement je traînais avec les foyers, j'ai traîné au foyer deux, trois fois. J'ai resté à Saint-Martin, une semaine, c'est un hôtel social comme ici. Je ne peux pas vivre dans les foyers, franchement, je connais bien les foyers. Tellement j'étais presque, au début quand j'ai rentré ici à Paris, j'ai resté presque trois ou quatre mois à Bolvarny, pour de la chapelle. Tu ne peux pas imaginer, franchement. J'ai resté deux jours à Nanterre, c'est que des foyers, des clochards, franchement, tu ne peux pas. Et après, je l'ai effacé tout de ma tête. J'ai envie de sortir le plus vite possible, sinon on devient fou, un clochard. Je ne peux pas expliquer ma vie à mon père, parce que mon père, ils disent, Nasser, il est bien et tout. Toujours, je lui donne la bonne image à mon père. Parce que si loin de moi avec ma mère, je ne peux pas dire, je suis dans la galère, je suis tard, je n'ai pas à travailler aujourd'hui, tard, je suis en foyer. Là. Je ne peux pas. Comme ça, c'est l'idée comme ça, il m'a dit, mon père, il vient rentrer direct. C'est sûr, ça c'est clair. Au moins, je porte avec moi une fleur en Algérie. Ça veut dire une fleur, un diplôme ou je sais pas.
Voilà, les deux derniers mois sont sur papier ici.
D'accord.
Puis le restant, 82, sur microfiche. Et vous avez aussi la possibilité de les consulter sur nos ordinateurs. On a les versions numériques.
D'accord. Non, sur le journal, c'est les deux...
Les deux derniers mois, c'est ça, c'est les lois et décrets. D'accord. Donc là, vous avez celui du 18 mars, enfin du 16 mars, dimanche.
D'accord. Voilà. Voilà. Merci, je vous remercie. Bien.
Okay.
Merci. Donc là, c'est dimanche 16 mars 2003. Ça, c'est le dernier, sur le numéro 64. Numéro 64. Ça, c'est le numéro 63. Donc, ça, c'est le dernier. Journal officiel de la République française. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Pour les candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé pour l'exercice de cette profession en France. Attends. Je vais aller direct la source d'informations, ça veut dire la source de, des articles, la source de... Est-ce que j'ai le droit de faire information? Est-ce que j'ai le droit de travailler ou pas? C'est ça que je veux. Je vais aller direct à la source. Voilà. C'est comme ça. Il y a toujours des lois qui sortent. Donc c'est pour ça que je suis intéressé par le journal officiel. Donc il y a chaque année, il y a des changements, des lois. Donc c'est pour ça... Donc là, j'ai tout comme l'article, qu'est-ce qu'elle a demandé, j'ai tout. Moi, et le problème, c'est la carte du séjour. Donc là, j'attends toujours. J'attends.
Parce que nous, on a un complexe. Ouais. Tu rentres en France pour travailler, pour ramasser de l'argent. Si tu ramasses un magot d'argent, si tu te maries et tu as tes papiers, ok, ça se comprend. Si tu retournes en bled, sans papier, sans argent, sans rien, c'est mal vu.
C'est une honte, voilà.
Vois, c'est une honte, en fait.
C'est raté, c'est loupé.
Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit, tiens, c'est entre l'enclume et le bâton. Je retourne en Algérie, purée, c'est la catastrophe, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il y aura à se foutre ici? Eh bien, je vais galérer. Alors moi, je vais te dire un truc. Par exemple, en Algérie, je pose le cas de l'Algérie, parce que c'est mon pays. Je dis un truc, hein. S'ils enlèvent les visas, tous les Algériens vont partir en Algérie.
Non,
je te dis, hein, parce qu'ils vont sûr qu'ils vont repartir en Algérie, ils vont revenir en France, ils vont repartir en Algérie et revenir en France. Là, ils ne peuvent pas descendre en Algérie. Parce qu'ils disent, si on va descendre en Algérie, on est cloué. Il n'y aura pas d'autre visa. Mais s'il n'y aura pas de visa, ils peuvent descendre et remonter. Il y aura cette navette.
Pour poursuivre son idée, oui. S'il n'y avait pas cette contrainte, avec la difficulté, quand quelqu'un est sûr de revenir et dit non, je repars au pays. Il va encore aller voir, puis je reviendrai.
Il se calme, il se calme.
Il se calme, il repartait. Mais là, puisque il y a une impossibilité d'avoir... il faut traverser des montagnes, traverser des océans pour avoir le visa. Et une fois qu'on l'a, on le garde. Quelles que soient les difficultés, on ne veut plus repartir.
F comme facho.
R comme raclure.
O comme ordure.
N comme nazi.
T comme tyran.
E comme ennemi.
X comme xénophobe.
Bras zéro Frontex. Voilà, c'était un bras zéro frontières 2. Parce que ça ne tient pas. Alors vous avez entendu des membres du GECO, des extraits de Nous sommes dans la frontière du collectif Précipité, une balade au bois de Vincennes, d'un collectif de soutien aux mutinés du CRA, justement de Vincennes, et un texte de Rosa Luxembourg, Asile de nuit. C'était Bras Zéro. Et c'est fini. Et à bientôt. Salut.